Wah, wah, boy. Yeah. Children play,
yeah.
Women produce,
uh-huh.
Kids killing kids just for the juice. Now Africa is looking for the truth,
but it's gonna take a while to
enlighten the youth.
This is another story, no need to bore me. It can't do nothing for me. Even as I watched it, they couldn't find any glory in the overcrowded streets of the city. I know it's shitty, but I could do it out of pity. This kid is not a silly rabbit.
Well, he's standing on a corner with his sister bumping loud. Mexican going off, spraying up the crowd. A whole lot of screams, a lot of broken glass. Brothers like to wear their pants falling off their ass. Girls today don't wear no bras. Little John Doe got a hoe turning tricks in the bars. Grandma carries a can of mace and she sticks a 45 in your face.
Hey, come and meet my man Brett.
Yo, what up, Brett?
It's smoking, but it's not a cigarette.
Speak on it, Pat.
I wonder how the hell a brother get into something,
uh-huh,
can't get out.
Uh-huh.
A lot of my friends are sick and tired
sick
of the police.
Word.
Rolling on them, picking on them,
holding on them.
Hoping that they got one of them.
It was a drug bust. But something's weird.
Well, what's the matter, Spinderella?
The way a half a million disappeared.
Children play. Women produce.
Juice.
It's killing kids.
Just for the juice.
Now Africa is looking for the truth.
What do you think the other man will
enlighten the youth?
Clowns, I spot them and I can't stop laughing. living. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut the camera off, real plastic.
I had to give you my.
Baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe 16's mine. Create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared. One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stressing chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme.
To give you my.
Route, lockdown, blast this, sets while I mash out, yeah, mash out, D-R-E, backtrack, think back, E-V-E, do you like that,
ew,
you got to, I know you, had you in the trance, first glance from the flow too, don't believe I'll show you, take you with me, turn you on, tension gone, give you relief, put your trust in a born winner, listen to me, damn, she much thinner, no, now I'm complete, still stallion, brick house, pile it on, ride or die, double R, can't strong. Cause I crush anything I land on. Me here ain't no mistake. It was planned on.
I had to give you my. It's only been a year. Now I got my foot through the door. And I ain't going nowhere. It took a while to get me. And I'm gonna take my time. Don't fight that good in your ear. Now let me blow your mind.
Ain't hard to tell.
Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'.
It ain't hard to tell. I excel, then prevail. The mic is contacted, I attract clientele. My mic check is life or death, breathing a sniper's breath. I exhale the yellow smoke of Buddha through righteous steps. Deep like the shining, sparkle like a diamond. Sneaker Uzi on the Allen and my army jacket lining. Hit the earth like a comet, invasion. Nazis like the Afrocentric Asian. Half man, half amazing. Cause in my physical, I can't express through song. Delete stress like moon trend, then extend strong. I drink my wet with Medusa, give us shotguns in hell. From the split that I'm lifting in hell. It ain't hard to tell.
Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'.
It ain't hard to tell.
Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'.
It ain't hard to tell.
Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'.
The Buddha monks in your trunk turn the bass up. Not stories by Aesop. Place your loot up. Parties are shoot up. Nas are analyze. Drop a jewel. Inhale from the L, school of full well. You feel it like grill, it ain't hard to tell. I kick a skill like Shaquille holds a bill. Vocabulary spills, I'm ill. Plasmatic, I freak beat, slam it like Iron Sheik. Jam like a tech with correct technique. So analyze me, surprise me, but can't magnetize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. I leave a froze like heroin in your nose. Nas, I rock well, well, it ain't hard to tell.
Nas, Nas, Nas is the kicker to stowin'. Nas, Nas, Nas is the kicker, Nas is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'.
It ain't hard to tell.
Zaz is the kicker to stowin'. Zaz is the kicker to stowin'.
This rhythmatic
explosion is what your frame of mind has chosen. I leave your brain stimulated. Niggas is frozen. Speak with criminal slang. Begin like a violin. End like Leviathan. Is deep. Well, let me try again. Wisdom be leaking out my grapefruit tree. I dominate break loose. Giving Mike's ministry cycles. Streets disciple. I rock beats that's mega trifle. And groove even smoother than Moe's by Villanova. You're still a soldier. I'm like Sly Stone and Cobra. Packing like a Rasta in the weed spot. Vocals are squeezed Glocks. MCZs drop. Though they need not to sneak. My poetry's deep. I never fell. Nas's rap should be locked in a cell. It ain't hard to tell.
Nas is the kicker that's going. Nas is the kicker that's going.
It ain't hard to tell.
Nas is the kicker that's going. Nas is the kicker that's going.
À l'instant, dans Funkadelica, dans cette session hip-hop, un MC qu'on appelle sous le nom de Nasir Jones, plus connu sous le nom de Nas, avec le titre In Ain't A Tutel, une version remix qu'on retrouve sur son album au départ mythique, Illimatic, sorti en 93, mais là c'est la version remix d'un artiste qui est sorti cette année pendant le Record Store Day, voilà, c'était... au mois de juin ou juillet, je sais plus, c'était l'édition d'été, je crois. Pas mal de très très bons remix, quelques inédits de l'époque également, un morceau d'un show de Bobito notamment. Voilà, pour les fans de cet artiste et des morceaux de cette époque, et voilà, c'est à conseiller.
Très bien. Efficace, ça, toujours.
Et oui, exactement.
Et juste avant, vous avez sûrement reconnu le titre Let Me Blow Your Mind de Eve avec Gwen Stefani du groupe No Doubt. Titre très efficace, sorti en 2001, issu d'une compilation, comme c'est surprenant de ma part. Comment lire? Bon, bah oui, quand même. Il n'y a pas d'émission sans compilation avec moi. Là, c'était issu d'une très bonne série de compilations hip-hop basics, sortie en 2015 en 4 double CD et 4 triple vinyle. Ça part de 78 jusqu'à c'est notre période actuelle, parce que là c'était la période de 98-2015, le volume 4, la Hip Hop Basics New School. Et rien pour vous convaincre que ça valait le coup de l'avoir, il y a du 50 Cent, Jay-Z, Mos Def, Dead Press, DMX, Lil Wayne, The Game, The Roots, Outkast, Gangstar, Snoop Dogg, et j'en passe, des pires et des meilleurs, mais jamais des pires, Drake, Kanye West et compagnie. Donc ça reste quand même une super compilation à se procurer dès que vous pouvez, parce que c'est quasi indispensable, mais aussi indisponible. Donc essayez de trouver.
C'est ça surtout.
Voilà, c'est surtout ça.
C'est une série qui part très vite, et pour trouver les hip-hop basiques.
Ça reste quand même des sacrées références.
Sortir les billets.
Ou pas, ça dépend des disquaires.
Oui. Il y en a qui font des bonnes affaires.
Des bonnes affaires, effectivement.
Et on va appréciable.
Terminer sur un grand classique avant de se dire au revoir dans 15 jours, mon cher Nono.
On va se saluer, on va terminer en effet avec un énorme classique de 92, puisqu'il s'agit de Jump de Chris Cross. Pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien, en 90, ces deux enfants originaires d'Atlanta, à savoir Chris Kelly et Chris Smith, alors âgés uniquement de 12 ans, sont découverts par le producteur Jermaine Dupri, ceux qui ça parle. C'est producteur entre autres de Cher, Mariah Carey, enfin énorme producteur, il y en a plein. Et donc il les découvre dans un grand magasin de la ville et puis il signe un petit contrat avec Ruffles Records. Ils enregistrent leur premier album qui s'appelle Totally Cross Out, donc entièrement produit par Dupri. Il est commercialisé le 19 mars 92, vendu à 4 millions d'exemplaires quand même. Et puis le fameux titre Jump, eh bien, reste quand même plus de 8 semaines consécutives au Billboard Hot 100. À partir du 25 avril 92, faisons-nous plaisir, mettez les futs à l'envers, on écoute Chris Cross avec Jump.
Et on se dit à dans deux semaines.
Alors 15 jours, bisous.
Bonne soirée.
Ciao.
We're gonna whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, Warcraft is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross. We all act. So when the eggs do they rock, say believe it. Yeah, you know me.
Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt.
Vous êtes sur le 101.5 de Radio G, bienvenue au sein de Génération Sport, saison 11. Du premier numéro de la saison 11 de Génération Sport, vous le savez sans doute pour l'équipe de l'émission, pas de vacances cet été puisque nous étions présents pour célébrer et commenter un petit événement planétaire qui s'est clôturé ce dimanche avec les Jeux Paralympiques. Alors pour les auditeurs qui découvrent l'émission ce soir, tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes l'émission Sport de Radio G et donc nous allons revenir sur l'ensemble de l'actualité sportive, qu'elle soit locale, nationale ou international. Au menu du jour, une longue interview du SCO Volley avec comme invité Salim Bellani, un homme aux multiples casquettes au sein du club, et Rachel Bruyère, la coach principale des SCOistes. On évoquera également le reste de l'actu du sport angevin après la pause musicale et on aura aussi forcément un débat autour de l'équipe de France de football avec notamment un retour sur les deux derniers matchs face à l'Italie et la Belgique. Enfin, pour terminer cette première, nous aurons le journal de l'actu sport international de Mathéo qui va vous permettre de rattraper ce que vous avez pu manquer lors du week-end dernier ou bien ce que vous allez voir arriver dans les prochains jours. Alors place maintenant à la présentation de l'équipe et les quatre voix que vous allez pouvoir retrouver chaque semaine sur le 101.5 jusqu'à la fin de la saison. On commence par l'historique de l'émission avec Cédric, présent depuis le premier numéro de la première saison. Bonjour Cédric.
Eh oui, c'était il y a 10 ans à peu près. On avait déjà des invités pour la première, voilà. Pour la nouvelle saison, ben le cycle se referme sur ce qui est l'ancienne équipe, mais s'ouvre avec la nouvelle. Avec des invités.
Exactement, c'est le cœur de l'émission, recevoir les acteurs du sport angevin. Nous avons chacun nos spécialistes et derrière à la réalisation, nous avons Faustin, le spécialiste basket, l'homme de la NBA. Bonsoir à toi.
Salut Florian, salut tout le monde. Et ouais, j'ai d'ailleurs repris ma saison de basket aussi ce week-end avec deux matchs. Rien que ça, avec notamment une action, un contre la planche que j'ai mis le plus beau de ma vie, j'ai pas peur de le dire.
Oh, la planche, elle a pas gagné cette fois-ci?
Non, c'est ma main, le ballon, la planche, quoi. C'était parfait.
Un chase down block pour toi, c'est très très bien. Également présent ce soir, Amaury. Bonsoir Amaury, c'est ta deuxième de l'émission, mais c'est le spécialiste hand de Génération Sport. Bonsoir à toi.
Bonsoir à toi, bonsoir à vous tous. Oui, handball, et moi aussi, j'ai repris ce week-end avec deux matchs également. Alors pas de contre la planche, mais un petit sauvetage alors qu'il n'y avait plus de gardien dans les buts. Oh, ça fait plaisir.
Très bien. Chacun a sa spécialité et le dernier membre du carré magique, c'est Mathéo. Comment vas-tu?
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Et ben écoute, ça va plutôt bien, un peu diminué finalement. J'ai pris le vélo ce matin pour aller en cours et puis j'ai chopé peut-être la crève.
Ah bah comme notre invité du jour.
Mais voilà, c'est compliqué, on va dire.
Pourtant, on n'est pas encore en hiver. Hein.
Une action sportive à se mettre sous la dent ou pas? Bon, après le vélo, c'était pas mal aussi. Donc
oui, c'était déjà bien. Ouais. Sinon les cours, hein. Les cours c'est sportif aussi quand on le fait bien.
Le sommaire est fait, la présentation de l'équipe est faite, la checklist est bonne, donc on peut maintenant acquérir le SCO Volley dans les studios. Bonsoir Rachel, bonsoir Salim.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous accueillir, vous êtes un peu le parrain et la marraine de cette saison 11 en tout cas de l'émission. On est ravis d'être avec vous pour parler du club, pour parler du SCO Volley tout simplement. Et je vais laisser Mathéo faire l'introduction de cette longue interview.
Exactement Flo, comme tu l'as dit ce soir, l'invité de Génération Sport, c'est le SCO Volley. Alors quand on entend Sporting Club de l'Ouest, on pense football, handball bien évidemment, mais dans ce cercle de nomination existe aussi d'autres disciplines et donc le volley. Alors club fondé en 1944, 8 ans après la fondation de la FFVB, la Fédération Française de Volleyball, ce qui en fait l'un des clubs les plus anciens de France, et on aura l'occasion de revenir sur l'historique évidemment. Alors l'occasion aussi de revenir sur les différentes sections du club, l'équipe masculine, féminine aussi, fondée 2 ans seulement après leur homologue masculin, et puis également les équipes jeunes. Alors pour en parler avec nous ce soir. Comme tu l'as dit, Flo, on a Salim Benani, vice-président du SCO Volley. Je refais un petit peu toutes les facettes, hein,
bien évidemment,
histoire qu'on retienne bien qui vous êtes. Et entraîneur également de l'après Nat, et puis Rachel Bruyère, qui a moins de casquettes, mais la sienne est peut-être plus imposante, puisqu'elle est coach de l'équipe masculine. Alors, avant toute chose, nous sortons d'une période intense de sport avec les JO, et puis pour le volley un petit peu avant, la Nations League aussi, remportée par les Bleus. Alors, pour les nouveaux suiveurs de ce sport, ou même ceux qui ont suivi de loin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le volley ?
Le volley, c'est un sport qui se joue à 6 contre 6 sur le terrain, avec un septième joueur, le libéro, qui lui s'occupe plutôt de la phase arrière. Et l'objectif du jeu, c'est de réussir à poser le ballon par terre, ou alors de réussir à dévier la balle avec le bloc adverse.
C'est plutôt...
Ouais, on a des petites galères des micros autour de la table.
On a mis la barre haute. Hein.
Exactement, voilà, nouvelle saison, ouais. Et puis des nouveaux moyens techniques aussi. C'est non, Rachel, moi j'aimerais aussi me tourner vers toi. Alors vous deux, vous parlez aussi de, enfin vous pouvez nous parler de l'aspect tactique, mais comme toi tu es coach, je vais en profiter. Explique-nous un petit peu quelles sont les différentes tactiques au volley, comment ça fonctionne sur un match, comment est-ce qu'on fait volleyer une équipe.
Enfin, on étudie le jeu adverse si on le peut sur les matchs aller. Et ensuite, il y a un plan de jeu qui se fait pour pouvoir attaquer l'équipe de la meilleure façon. Et voilà, c'est un sport très tactique et très technique aussi. Peut-être le plus collectif parce qu'on est obligé de passer par tous les joueurs de l'équipe. En fait, par rapport aux autres, on peut avoir des exploits individuels. Là, c'est pas possible. Donc, on étudie sur la phase aller les équipes et puis après, on met les plans de jeu en phase pour pouvoir gagner les matchs retour si ça n'a pas été fait.
Alors je vais reprendre un peu ce que tu as dit. Tu as dit le plus collectif des sports collectifs. Ça me permet de faire une transition un petit peu sur l'histoire du volley et de sa création. Alors ça, je l'ai lu sur votre site internet, celui du SCO Volley. C'était un sport à l'origine qui a été pratiqué l'hiver par les footballeurs et autres basketteurs, puisque l'hiver, forcément, on ne pouvait pas jouer en extérieur. Est-ce que ce lien entre les différents sports collectifs existe encore aujourd'hui avec le volley, que ce soit de par les clubs en eux-mêmes et puis les supporters?
Je suis pas sûre que ça soit encore d'actualité. Non, les volleyeurs, c'est assez particulier comme sport. C'est un sport sans contact, un sport collectif avec le filet. Donc, ça a rien à voir avec les autres sports collectifs qui existent, en fait. C'est assez particulier, ouais.
Et au niveau des spectateurs, est-ce qu'on peut plus facilement se tourner vers le volley quand on suit, par exemple, le foot et le basket plutôt que le golf, par exemple? Ça paraît évident, mais quand même, est-ce qu'il y a un lien entre ces sports-là?
Peut-être avec le hand, je suis pas sûre avec le foot parce que c'est pas trop le même milieu, mais je pense le hand ou les sports ou même le... c'est un peu un sport intellectuel aussi, donc on a un public particulier, en fait.
En parlant du coup de l'historique, Salim, je me tourne vers toi qui es joueur. Est-ce que tu connais bien l'histoire du volley? C'est un sport quand même qui a 129 ans, qui s'est exporté en France il y a un siècle, et du coup ensuite qui est arrivé à Angers peut-être une vingtaine d'années après. Est-ce que toi tu la connais bien l'histoire du volley?
Alors honnêtement, j'ai dû l'apprendre pour mes cours de PS en classe de terminale parce que j'avais un dossier à faire, mais mis à part ça, absolument pas.
Et toi, Rachel?
Bah, je l'ai appris aussi en STAPS, mais voilà, c'est pas plus maintenant.
Et sur l'histoire de votre club, du coup, on va en profiter pour parler de ça, justement. Ça, je pense que vous la connaissez un petit peu mieux, l'histoire.
Salim, oui. Moi, je suis pas depuis longtemps.
Allez, raconte-nous, je te laisse la parole, et puis fais-nous une petite chronique sur l'histoire du...
Alors, au début, il y avait des dinosaures. Ils ont trouvé des cailloux, ils l'ont jeté en l'air, ils ont tapé avec les têtes.
C'est comme ça que ça s'est passé?
À peu près, franchement. À 2-3 détails près. Bah moi je suis arrivé en 2016 au club quand on était encore en N2 à cette époque-là. Et en fait le club sortait de grosses difficultés financières. Donc 2 ans plus tard, le club est redescendu à N3 et ça fait 3-4 ans maintenant qu'on travaille pour revenir au niveau auquel on était à ce moment-là.
Et l'équipe féminine aussi, alors ça on va pouvoir en discuter après du niveau sportif actuel, mais comme je l'ai dit, elle a été créée 2 ans seulement après l'équipe masculine, donc ça c'est assez novateur quand même. On est dans une époque où le droit des femmes, c'est pas forcément trop ça, notamment dans le sport. Est-ce que Rachel, toi tu peux nous parler de ça, ou même Salim, hein, justement de cette équipe féminine?
Bah je trouve
historiquement parlant,
au SCO justement il y a un bon équilibre entre les deux. Parce que le secteur féminin et masculin évolue au même niveau cette année, en National 2. En parité de licence, on est vraiment moitié-moitié garçons et filles. Et c'est plutôt rare dans un club d'arriver à développer les deux secteurs. Donc c'est un club qui est assez évolué là-dessus, avec un entraîneur féminin, des dirigeants moitié hommes, moitié femmes. Donc il y a une bonne parité dans notre club. Ouais.
Justement, c'est une des deux équipes qui porte votre club. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt égalitaire. Est-ce que vous auriez un mot pour définir cette équipe et son état d'esprit ?
L'équipe fille ou l'équipe garçon ?
L'équipe fille, pour commencer. On aura la même question pour l'équipe garçon, mais là, on est sur l'équipe fille. Donc,
moi, je dirais collectif. L'an dernier, alors qu'elles n'étaient pas forcément très nombreuses, elles ont sorti une des plus belles saisons de l'histoire du club pour réussir à acquérir cette montée en National 2. Alors que en face, il y avait des écuries comme les Neptunes de Nantes qui étaient beaucoup plus armées que nous pour y arriver. Et donc le collectif a fait que elles y sont arrivées et elles ont réussi à atteindre l'objectif qu'elles s'étaient fixé en début d'année.
Oui, c'est une équipe qui a déjà joué en National 2 ou c'est tout nouveau pour elle?
Il y a déjà une équipe féminine OSCO qui a joué à ce niveau-là entre 2017 et 2018. Depuis, elles étaient redescendues, elles ont fait une seule saison. Et le groupe a totalement changé avec des joueuses qui ont été formées au club. Et nous, c'est ça aussi qu'on a envie de promouvoir, c'est la formation des jeunes talents de la région angevine.
Tu nous parlais de cette équipe de Nantes. Vous avez fini juste devant eux. Ça aussi, c'était une petite victoire dans la grande victoire qui a été la montée finale.
Totalement. Elles avaient annoncé leur volonté de monter en N2 dès le début de la saison. Nous, on avait dit bon, on voit ce que ça donne. On tente le podium cette année et après c'est l'appétit vient en mangeant, comme on dit, et au fil des victoires, et après les avoir attrapées à domicile au premier match, les filles se sont dit, pourquoi pas aller jusqu'au bout.
Et pour suivre beaucoup les équipes, alors pas forcément que de volley, mais aussi de foot, de rugby, de basket, de hand et tout, c'est vrai que je vois beaucoup ça au volley, d'avoir des annonces de montée d'entrée de jeu, même avant le premier match, d'être sûr de sa force et de se faire bananer à la fin et de se dire à la fin voilà on se fait manger par plus petit que soi. Et déjà en 2017-2018 lors de la saison de N3, donc 2016-2017, il y avait déjà eu des équipes comme Anglette ou comme Gers qui avaient déjà annoncé leur objectif de monter et déjà le SCO avait fait déjouer les pronostics.
C'est vrai.
Mais je sais pas pourquoi c'est lié au volet de tout de suite être sûr de ses forces. Est-ce qu'il y a, quelque chose
Parce qu'il y a des clubs historiques, en fait.
Ouais.
Il y a des clubs historiques avec des grosses écuries. Et nous, le SCO d'Angers, on est plutôt une petite écurie. Donc on nous prend peut-être pas toujours assez au sérieux. Mais finalement, les deux équipes sont en National 2. Donc peut-être qu'on va faire plus attention à nous, en fait.
Et le fait d'avoir... vous disiez tout à l'heure, tous les deux, que... Là, il y a la N2 garçons, la N2 filles. C'est assez rare dans le monde du volley. C'est vrai, souvent les clubs privilégient vraiment un secteur, et c'est pour ça qu'il y a des clubs historiques qui sont que dans le secteur féminin ou que dans le secteur masculin. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté de faire progresser les deux équipes vraiment vers le même sens, Salim, je te vois sourire, ou non, à un moment donné, il faudra forcément faire un choix.
Jusqu'en N2, nous, le club ne fera pas de choix. Après, moi, j'avoue qu'étant donné la situation géographique et les projets des clubs alentours, je serais plus favorable à monter un projet féminin. Mais je pense que Rachel, forcément, elle voudrait monter plutôt un projet masculin. Mais ouais. On est fermé à rien.
Pourquoi cette est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs le projet en fait géographique, en fait l'analyse géographique que tu fais du monde du volley autour de Angers?
Autour d'Angers, en fait, il y a les gros clubs nantais. Bon, avant que le NRMV malheureusement ferme boutique cette saison, il y avait un gros club masculin à Nantes, un gros club masculin à Saint-Nazaire, un gros club féminin à Nantes, et c'est tout. Sachant qu'à côté de nous, à Laval, se monte également un très gros projet masculin aussi, dans les années à venir. C'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de s'orienter plutôt vers un projet féminin.
D'où la nécessité. C'est vrai qu'il y a plus ce projet en Vendée. Il y avait des clubs historiques en Vendée, que ce soit dans le secteur féminin ou dans le secteur masculin. Maintenant, c'est plus vers le SCO qu'il faut se diriger là-dessus.
Plus sur le SCO, non, parce que les Vendéens vont rester en Vendée et c'est très bien aussi. Il y a le club de Bouffé qui a monté un beau projet, le club d'Élan de Génusson aussi. Maintenant, c'est vrai que le volley vendéen a un peu plus de mal à se développer parce qu'il n'y a pas de grosse ville étudiante. Mmh. Nous, Angers, étant donné qu'on est une ville étudiante, on attire assez facilement. C'est plus difficile là-bas.
Et du coup, c'est aussi un bienfait aussi pour le SCO dans les équipes de jeunes d'avoir aussi des équipes de jeunes en Vendée qui forment très bien des joueurs et qui viennent en post-formation du coup au SCO, c'est ça ?
Totalement. Enfin, il y a les clubs vendéens par contre sont des très bons clubs formateurs. Les Longenusson, il y a des bons entraîneurs. Bon, je dirais pas le contraire forcément. Parce que, il y a mon père qui entraîne, ouais, ma tante forcément. Aussi, donc forcément je dirais rien. À Boufféré, ils ont beaucoup de jeunes aussi, donc c'est pas mal. La Roche-sur-Yon, l'ancien entraîneur de du SCO, Pierre Moncanis, enfin il forme les jeunes, donc c'est vrai que c'est très formateur en Vendée. Maintenant, bah, comme les jeunes partent aux études, ils ont du mal à les garder.
C'est bien de parler de la Vendée, puisque on va quand même le rappeler à nos auditeurs. Salim a démarré sa carrière d'entraîneur, enfin de vraiment de coach principal en 2013. J'ai reçu, voilà, en préparant l'émission, on a pu regarder, on a pu trouver cette information. Il avait la volonté de gagner tous les matchs avec son équipe. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant ? Alors après, forcément, t'as forcément envie de gagner tous les matchs. Mais est-ce que tu peux te maintenant en tant que coach et approchant maintenant à la trentaine, on a le droit de le dire, on évoque un peu ton âge, presque 12 ans après, est-ce que tu peux plus te satisfaire d'un bon contenu avec ton équipe féminine en prénat notamment plutôt qu'une victoire voilà, c'est un peu compliqué, je sais, mais
Là-dessus, je te suis. Je vais avoir tendance, en vieillissant, à regarder davantage le contenu que de regarder le résultat. Le fait est que derrière, il y a également un projet sportif, un projet de club, et qu'à un moment donné, il faut gagner les matchs. Donc, évidemment, je vais avoir tendance à dire pour la pré-nationale féminine qu'il faut absolument se maintenir, donc il faut gagner des matchs, mais pas à n'importe quel prix. Je préfère voir un bon contenu et une défaite à la fin que l'inverse.
Ok, ouais, c'est l'évolution de vision d'un coach quand il commence et puis quand il prend du bagage technique et individuel. Vas-y Mathéo pour la suite de cette interview.
je voulais juste avant de continuer, je voulais te poser une petite question, Salim, parce que bon, Florian l'a discrètement dit, t'approches de la trentaine du coup. Moi, je voulais savoir, question tout à fait bête, mais peut-être pertinente. Est-ce que être un joueur de 30 ans, par exemple, c'est vieux ou pas pour le volley ?
Ça dépend l'hygiène de vie, j'ai envie de dire. C'est là, j'avoue que je commence à avoir les articulations qui rouillent un peu. Mais l'an dernier, pas de blessure. Physiquement, ça a été ma saison la plus aboutie parce que j'ai vraiment fait attention à moi. Je m'échauffais correctement. Donc, et c'est surtout que je joue un poste qui est pas trop traumatisant, j'avoue. Si j'étais attaquant, ce serait peut-être différent.
Donc la moyenne d'âge pour avoir peut-être le meilleur niveau de sa carrière, c'est autour des 28, 29 ans à peu près.
Ouais, 27, 28.
Ok. Bon, je vais me replonger maintenant sur l'équipe féminine encore, parce que Flo a cherché un petit peu à comprendre la situation géographique. Moi, je vais chercher à comprendre la situation sportive un petit peu, parce que vous avez fini premier de votre groupe en National 3 au niveau des féminines, et vous êtes monté en N2 malgré une défaite en barrage juste avant l'accès au Final Four.
C'est pas des barrages, c'est juste pour faire le champion de France.
Ah ok, d'accord. En fait, je savais pas s'il y avait un lien, parce que par exemple au rugby, nous, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait l'interview du SCO Rugby, c'est qu'au rugby on a des vrais barrages, donc 32e, 16e, 8e, et on se qualifie qu'à partir des 16e.
Non, là c'est juste du folklore pour
D'accord, très bien.
Le champion de France.
Ok. Bon, comme ça, c'est clair. Et puis, on comprendra mieux la prochaine fois. Donc, cette année, vous êtes tombé dans une poule. J'ai pas énuméré toutes les équipes de cette poule parce que c'est vrai que c'est quoi? C'est 8 équipes, si je dis pas de bêtises?
11
dans chaque poule, garçons et filles.
Comment est-ce que vous la voyez, cette poule? Est-ce qu'elle est homogène? Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose dans cette poule féminine?
Ouais. En filles, c'est la poule du Nord et de Paris. Moi, je l'ai étudiée. Je pense qu'on peut se maintenir. Parce qu'il y a des équipes qui sont montées comme nous, mais on est en troisième de National 3. Il y a des équipes qui étaient reléguées, qui ont été repêchées. Moi, c'est une poule que je connais parce que je les ai vues jouer quand j'allais à Quimper voir des matchs. Donc, je pense que pour les filles, ça sera accessible le maintien cette année, oui.
Comment est-ce que les filles se positionnent par rapport au premier match du 29 septembre face à Cizouin ?
Je leur ai expliqué justement toutes les équipes de la poule et ça leur a permis d'être plus clairs sur nos objectifs et de se dire que c'était jouable.
Promis, la fédération n'écoute pas ma prochaine question et votre prochaine réponse. Mais est-ce que, pour avoir longtemps, été journaliste près du SCO Volley, c'est vrai que ça a été quelque chose parfois d'assez surprenant de voir la composition des poules faites par la fédération. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années pour, entre guillemets, parce qu'on va quand même le rappeler, un club de volley, ça n'a pas forcément les mêmes moyens qu'un club de foot ou de basket, parce que je sais que Faustin suit aussi normalement de basket angevin, et ils ont quand même, il y a plus de facilité à avoir parfois du budget ou des sponsors. Là, c'est vraiment parfois chaque centime qui compte ou chaque euro qui compte dans un déplacement, et de voir parfois un déplacement dans le nord de la France, là, est-ce qu'ils ont fait des efforts là-dessus ? Promis, ils n'écoutent pas.
Ah, ils n'ont pas le choix, en fait, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus que 4 poules. Donc, 4 poules de 11. Nous, on est, ça va, on a le nord, mais je sais que Saint-Etienne, là où j'entraînais avant, eux, ils se prennent le sud et l'est.
Ouais.
Donc, nous, on ne peut pas se plaindre, mais quand il n'y a que 4 poules, ils n'ont pas le choix. Il y a une répartition géographique qui est faite au mieux. Mais oui, effectivement, aller jouer à Dunkerque, ça ne va pas nous arranger. Mais si on joue à ce niveau-là, on le sait, en fait. Ouais.
Mais c'est vrai que, là, par rapport aux poules de cette année, nous, en garçons, on a vraiment de la chance.
Oui, c'est vrai.
Les filles, dans leur malheur de long déplacement, c'est la moins pire des poules qui est sortie. Donc, parce qu'il y a des poules vraiment aberrantes. Le club de Saint-Etienne, le club de Cagnes, qui avait envoyé un courrier, le club de Cannes, d'ailleurs, aussi, qui a envoyé un courrier à la fédération pour demander un changement des changements de poules, parce qu'il y avait des poules qui étaient peut-être,
Ça va de Mulhouse à Monaco. En
fait. Ah, mais c'est ce que j'ai vu, mais le club du Haut-Rhin, du coup, Mulhouse va se déplacer vraiment dans le sud de la France, Bon, après, c'est un club avec un autre budget, mais bon, c'est quand même des déplacements.
Même les clubs avec les gros budgets comme Cannes ou Mulhouse sont pas forcément contents de tomber dans ce genre de poule. Parce que, comme tu le disais, c'est un sacré budget, et en temps d'inflation et avec les baisses de subventions publiques un peu partout en France, les clubs ont tendance à vouloir faire quelques économies.
Faut compter aussi sur les déplacements des supporters. Mine de rien, ça rentre aussi dans l'économie d'un club. Donc, je suppose que quand on doit parcourir tous les week-ends un bout de la France, c'est comme tout, on va choisir ses matchs, et là, ça peut jouer aussi sur le parcours de l'équipe au cours de la saison.
Oui. Après, c'est vrai qu'avec les longs déplacements, les supporters n'ont pas l'habitude de se déplacer, dans notre cas. Quoique pour les filles, on a deux supporters qui sont vraiment qui ont suivi les filles quasiment à tous les matchs la saison dernière. Donc Jacques Prévost et Anthony Chupin, on les salue. Mais voilà, les garçons, on a un peu moins de suivi sur les longs déplacements.
Ça me permet de reprendre à ma linéarité d'interview et justement parler des garçons. Comme tu le disais, la saison dernière maintient. Proche de la dernière journée, avant-dernière journée, si je dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'elle s'est passée cette saison, et notamment cette fin de saison qui a dû être folle, j'imagine, Rachel?
Alors la poule de l'année dernière était très très forte. Moi, j'ai pas cru à la descente, même une fois que le championnat était terminé, parce que vraiment, on s'était battu sur tous les matchs, et c'était important de pas finir dernier. On est allé chercher notre maintien à Mérignac, je pense, où on est allé battre cette équipe-là. Et quand la fédération m'a appelé pour me dire qu'on était maintenu, j'étais pas finalement très surprise, parce que je pense qu'on le méritait vraiment par rapport à la poule dans laquelle on était. Donc,
Il y a beaucoup de positifs qui ressortent de cette saison finalement, malgré le classement final.
Oui, parce que je pense qu'on avait fait une saison plus forte que l'année d'avant encore quand on est monté. Si, avec des équipes beaucoup plus fortes, on a rencontré des grosses écuries avec des anciens joueurs pros. Nous, c'est tous des gens formés pratiquement au club, l'équipe est très jeune. Donc, il déméritait pas, et pour moi, il méritait d'être en N2 cette année encore. Ouais.
C'est quoi les principales leçons que vous tirez en tant que coach de cette saison déjà, et puis au niveau individuel sur vos joueurs?
De cette saison, c'est qu'il faut se battre jusqu'au bout, parce que on y a cru jusqu'au bout. Je pense quand même qu'on n'a jamais baissé les bras, même si ça a été dur. On a pris beaucoup de défaites, mais on s'est battu. Et on va repartir sur une nouvelle saison dans une poule différente qui sera. Il y a des grosses écuries aussi, mais qui sera peut-être plus accessible. On a des nouveaux joueurs. Donc il faut qu'on continue à se battre, et je pense qu'on peut se maintenir à ce niveau.
Avant le début de cette saison, vous avez un rendez-vous important le 14 septembre. C'est un peu le lancement de vos saisons, finalement, avec ce trié affrontement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus tous les deux?
Moi je voulais organiser, puis avec l'accord de Rachel bien sûr, des matchs contre des équipes qu'on n'affrontera pas cette année. Donc c'est vrai que j'ai pensé tout de suite à l'équipe 2 de Laval et l'équipe de Bouféré, comme ça. Ça me permet également de voir les copains de Vendée. Mais voilà, c'était aussi préparé au mieux cette saison. Et puis les amis du club de Saint-Barthélemy d'Anjou ont également accepté un match vendredi soir. Donc là, ça va être un week-end plein avec trois matchs de préparation pour cette saison.
C'est récurrent au volet d'avoir ce genre de préparation. On a trois matchs dans la même journée. Enfin, deux, du coup.
Pas forcément. Ça dépend vraiment des clubs. Ça dépend vraiment des années. Il y a des clubs sur un match de prépa, ils peuvent être totalement prêts pour la saison. D'autres clubs sont beaucoup plus rigoureux et prennent les trois week-ends de septembre en faisant des tournois chaque week-end.
Ils étaient déjà arrivés, il me semble, pour l'accession en N3, où le barrage Prénat ou l'accession en N3 Prénat se jouait, je me souviens, de trois matchs lors du même week-end, samedi-dimanche. Donc ça se faisait déjà, en fait, pour des matchs en jeu. Donc la préparation, donc j'imagine que est-ce que je sais pas si ça se fait toujours, mais c'est vrai que ça se fait déjà par le passé, en fait.
Oui, bah ça se fait toujours maintenant. C'est vrai que les triplettes, c'est plus simple parce que le déplacement des équipes leur permet de jouer plus longtemps que de faire de déplacement. C'est vrai que en temps où on doit être un petit peu éco-responsable, c'est relativement intéressant.
Après les préparations, en tout cas, c'est le match, le lancement, le vrai lancement officiel de la saison. Pour vous, c'est comme les filles, le 29 septembre, c'est face à Saint-Avertin, et là, c'est directement un choc d'entrée de jeu.
Ouais, en plus c'est un match où j'ai pas pu décaler les matchs des garçons et filles, donc je serai qu'avec une seule équipe sur ce match-là. Avec les filles, je pense qu'ils vont en gros déplacement. Donc c'est Salim qui prendra le coaching. Mais oui, Saint-Avertin, c'est un club qu'on connaît bien. Avec un ancien du SCO. Mais voilà, après on va lancer sur cette saison. Après c'est pas pour les filles, le premier match est peut-être plus important parce que c'est une équipe beaucoup plus accessible. Pour les garçons, on va apprendre au fur et à mesure, mais Saint-Avertin, on les connaît bien, donc pourquoi pas.
Saint-Avertin qui a fini sixième de votre poule la saison dernière, c'est pour ça que je disais que c'est un véritable choc. Et sinon, plus globalement, face au tirage, à la poule que vous avez eue, est-ce qu'elle est plus clémente que la saison dernière ou c'est à peu près pareil?
On a quand même Laval qui est une grosse écurie, après Saint-Avertin aussi. Après, il y a des équipes qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'a pas eues. Donc ça va nous changer, puisque l'année dernière, on avait toutes les équipes du Sud-Ouest. Donc je ne sais pas, je l'ai étudié un petit peu. Après, on a quand même deux équipes qui descendent d'élite, il me semble, dans cette poule.
En fait, on a deux équipes qui descendent d'élite et trois équipes qui montent. Et dans les équipes qui montent, il y a l'ASB Rezé. Et l'ASB Rezé, c'est donc la deuxième équipe du club du NRMV qui s'écroule avec des joueurs qui étaient donc à plus haut niveau et qui vont redescendre avec l'effectif... effectif en dessous, donc on sait pas trop ce que ça peut donner comme équipe. Et puis avec un ancien du SCO qu'on connaît bien aussi, Maxime Morillon, donc
le SCO est partout. Découverte totale. Ça va être une découverte totale.
C'est
une mafia le SCO.
Et vous positionnez comment par rapport à ça? Est-ce que l'objectif c'est le maintien? Est-ce que c'est de jouer le milieu de tableau?
L'objectif c'est le maintien. Après, moi j'aime pas trop mettre des objectifs très clairs en début, enfin à part le maintien, et puis après au fur et à mesure des matchs on voit si on peut jouer le haut de tableau, mais je veux pas, par rapport à d'autres clubs, je m'avance pas trop. Je prends au fur et à mesure. L'équipe est un petit peu en reconstruction avec quelques nouveaux joueurs aussi, donc faut qu'on se découvre, même s'il reste un noyau dur de par rapport à l'année dernière, mais on a eu pas mal de départs, donc voilà, faut qu'on reconstruise, mais j'y crois parce que je pense que le recrutement a été bon cette année dans les deux équipes. Et moi, en tout cas, ça me fait envie de les coacher et ouais, de voir ce qui va se passer.
On va voir ce qui se passera. En tout cas, qui dit septembre dit fin de l'été. Et l'été, qu'est-ce qu'on a? Les licences. Ça me permet de rebondir un petit peu sur les Jeux Olympiques et puis la Nations League. J'en ai parlé un petit peu en préambule. Voilà, la France double championne olympique en titre et puis tout court, tout simplement. À ce niveau-là, on a beaucoup parlé des hausses de licences en natation avec les exploits de Léon Marchand. Est-ce que les exploits de la bande à Erwin ont poussé les gens à s'inscrire au SCO Volley?
Bah, bien sûr. Sauf que, on n'arrive pas à accueillir tout le monde, en fait. Hein. On n'a pas assez de créneaux, pas assez d'encadrants, mais surtout de créneaux. Donc, on a pris le maximum. On est plein dans toutes les catégories. Et puis, on est malheureusement obligé de refuser les gens cette année. Voilà. Donc, on espère que l'année prochaine, on aura plus de créneaux pour accepter tous ces nouveaux volleyeurs.
C'est le moment de faire un appel à la mairie. Hein, si vous avez besoin.
Exactement.
Après, c'est vrai que en plus, il y a eu du changement au Scovolé ces dernières années avec maintenant le nouveau gymnase aussi. C'est vrai que ça a dû changer un peu la vie du club, le quotidien du club, et d'avoir un vrai gymnase. Je sais que Salim, c'était une de ses volontés depuis qu'il arrive au club. Non pas que le gymnase Jean Rousseau n'est pas bien, mais il n'est pas forcément adapté à peut-être à du volley entre guillemets de haut niveau, de National 2 en tout cas, dans sa physionomie, et donc d'arriver maintenant à
Jean Villard,
je confondais avec un autre gymnase, mais à Jean Villard, ça a dû changer la vie du club et le quotidien du club et même les matchs, je pense, Rachel.
Ah oui, on joue pas le même volet à Jean Rousseau qu'à Jean Villard. On avait besoin de cette salle, rien que pour la hauteur de plafond déjà, qui nous permet de jouer à un niveau National 2, plus des tribunes qui nous permettent d'accueillir du public. Effectivement, en National 2, jouer à Jean Rousseau, ça aurait été compliqué. Même pour nous, même si on était habitués à cette salle, les impacts, notamment en garçons, sont trop importants pour jouer dans une salle avec un plafond aussi bas.
Tu parles d'impact, Rachel, pour le volet garçon. Ça, c'est intéressant de faire un peu le parallèle entre les deux volets. Quelle est la différence entre le... Voilà, tout à l'heure, tu parlais de technicité. C'était Saline qui parlait de technicité chez les filles. C'est vrai que chez les garçons, on invite en tout cas nos auditeurs à aller voir du volet, que ce soit féminin ou masculin, et on l'invite forcément d'aller voir le SCO, bien évidemment, et d'autres clubs aux alentours, hein, parce qu'on est diffusé autour d'Angers. Donc, dès que vous avez l'occasion de voir du volet, allez-y. Mais c'est vrai, quelle est la différence entre les deux volets?
Je pense que c'est l'impact physique chez les filles. Il y a le rapport service-réception qui est très important, la technique, la défense. Mais par contre, à niveau égal, enfin National 2, chez les garçons, l'impact physique est beaucoup plus important.
Salim, toi qui est passeur, on le rappelle quand même.
Je suis un peu d'accord avec la coach. Là-dessus, l'impact physique en N2 garçons est plus important. On l'a vu la saison dernière avec des centraux ou des joueurs tout simplement, on avait une ligne où les joueurs étaient pas en dessous de 2 mètres. Alors que chez les filles, c'est moins le cas. On a des grands gabarits, on a quelques grands gabarits, mais il y en a pas autant qui dépassent le mètre 80.
On dit souvent que le sport a changé, le foot a changé, c'est plus le même foot qu'il y a 10 ans ou quoi que ce soit. Bon là, je fais appel à votre expérience, mais est-ce que le volley ces dernières années est en perpétuelle évolution, que ce soit dans le physique des joueurs ou des joueuses bien évidemment, mais est-ce que il y a une évolution réelle entre toi, ce que tu as connu en N2 quand tu es arrivé au club, et la N2 de maintenant, Salim?
Moi, je dirais plutôt un changement d'état d'esprit entre les joueurs. La perception est pas la même. Donc, au final, on a des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus relâchés, qui se mettent moins l'impression sur le terrain qu'avant. Avant, il y avait beaucoup plus de rigueur et donc il y avait peut-être un peu plus de pression sur le terrain. Aujourd'hui, un peu moins. Donc, au final, je pense que les matchs sont un peu, enfin, il y a moins d'enjeux sur ces matchs-là.
Rachel, est-ce que toi, t'as vu aussi une évolution là-dessus?
Ouais, je pense que. Alors, je ne veux pas dire que le niveau du volet a baissé, mais quand même avec les refontes de poules sans arrêt, un petit peu. Moi, quand je coachais en National 2, il y a une dizaine d'années, le niveau était peut-être plus haut avec des anciennes pros. Maintenant, c'est plus jeune, c'est comme dit Salim, il y a peut-être moins, c'est moins professionnel le National 2. Donc le niveau est plus accessible pour nous.
Et justement, le côté médiatisation par les différents médias, à travers notamment avec la période des JO, entre autres, où forcément on en a parlé deux fois plus que d'habitude, mais on a vu qu'il y a eu des chaînes comme L'Équipe qui ont pris le risque aussi de diffuser le championnat de volley. C'était pas forcément des paris gagnés de base. Est-ce que tout ça, justement, ça joue aussi sur la façon que les joueurs on veut percer plus, donc ça change leur façon de s'entraîner, de jouer, de... L'état d'esprit.
Ils s'identifient à l'équipe de France. Donc maintenant, on voit apparaître dans les gymnases des jeunes qui viennent s'entraîner avec des maillots de l'équipe de France. Ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. Donc forcément, ils les regardent, ils veulent les imiter. Donc oui, je pense que ça pousse. Nous, au SCO, ce qui pousse, c'est les jeunes derrière. Le niveau des jeunes est beaucoup à évoluer, en fait. Ils veulent devenir pros, ils veulent rentrer en pôle. Voilà, la mentalité a changé.
Ouais, ça a eu un aspect plutôt positif, bien par
le haut. Chez les filles aussi, mais en regardant l'équipe de France masculine, parce que malheureusement, l'équipe de France féminine n'a pour le moment pas de gros résultats. Mais quand même, elle commence à s'identifier à elle aussi.
Bon, je voulais poser une question aussi pour rester dans cette... vibe un petit peu de popularité grandissante du volley. Est-ce que il y a une dizaine d'années, on avait déjà l'apparition de ces stars connues en dehors du volley, comme aujourd'hui on peut avoir avec, en tout cas pour l'équipe de France, Erwin Engapet, Jean-Patry, Brizard également.
C'était moins développé. Maintenant, ça allait vraiment. Là, avec les JO encore plus, parce qu'on a plein de jeunes qui ont assisté. On a des jeunes qui portent les maillots des joueurs. Bon, en plus, nous, on est dans une région où il y a quand même des clubs pro, donc ils vont les voir jouer, ils s'identifient à eux. Donc oui, ça s'est vraiment développé.
Ça me permet de faire la transition vers nos stars du jour. On n'a pas encore parlé de vos parcours à vous, et c'est quand même important. Je ne sais pas combien de temps il nous reste.
On peut y aller, hein, on a priorité au scoop volley aujourd'hui. Hein.
Allons-y. Je vais vous laisser nous parler un petit peu de vous. C'est important aussi. Vous avez des parcours remplis en termes de volley, donc. Je sais pas qui veut commencer entre vous deux.
Je dirais bien priorité à la coach quand même.
En tant que joueuse, moi j'ai joué en National 2. J'ai arrêté avant le Covid quand même, parce que ça devenait un peu dur. Et en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné longtemps dans la région stéphanoise. Après, j'entraîne ici aussi pour la Ligue des Pays de la Loire sur les sélections moins de 15, puisqu'on a accueilli les volleyades cette année à Angers, qui était importante aussi. J'ai été adjoint entraîneur de pôle, fait quelques stages avec les équipes de France jeunes, et maintenant avec le SCO. J'avais démarré avec les deux équipes de N3. L'année dernière, j'ai laissé l'équipe de N3 filles parce que c'était compliqué d'avoir deux équipes de nationale. Et puis cette année, je reprends les deux équipes de nationale 2. Et après, je fais quelques missions pour la fédération. Voilà.
C'est un beau CV, hein. Très franchement, on peut que dire bravo. Et toi, Céline?
Moi, encore joueur, donc je vais pas parler de mon CV coach parce qu'il est pas, immense non plus. J'ai dû faire une année en tant qu'entraîneur de la prénat de filles il y a 6 ans. En tant que joueur, j'ai été formé au club des Herbiers. J'ai été formé avec la pré-nationale dans un premier temps, et après j'ai fait 4 saisons en N1. Dont une où il y a eu une accession en Ligue B, mais pour raisons financières, nous n'y sommes pas allés. Et puis, pour mes études, je suis arrivé sur Angers en National 2. C'est à l'époque Pierre Moncanis qui m'avait contacté, et puis je suis arrivé et j'y suis resté. Je suis resté un moment quand même. Je suis parti un an pour raisons professionnelles. Je travaillais à La Roche-sur-Yon, donc j'ai signé un an à Cholet. Et je suis revenu assez rapidement sur Angers, où je me suis réellement installé. Et ensuite, je suis rentré dans le bureau du club.
C'est hyper intéressant, vos parcours, parce qu'on voit que vous avez voyagé. Vous êtes allé de point en point en termes de club de volley, et puis de rôle aussi. Ça, c'est propre à tous les volleyeurs, coach, on va dire, ou c'est quelque chose qui, vous aussi, fait partie de votre histoire, entre guillemets?
Ouais, je sais pas, moi, ça fait partie de mon histoire, parce que je voulais évoluer au plus haut niveau quand j'étais joueuse. Donc, je jouais dans le Sud, et je jouais à Saint-Etienne. Après, en tant qu'entraîneur, j'étais restée quand même 20 ans dans le même club avant de venir à Angers. Oui, si on veut évoluer, voir les niveaux à côté, évoluer dans notre travail, c'est bien de bouger aussi. Maintenant, je suis bien ici, donc je pense que j'y suis pour un moment.
Peut-être 20 ans également.
Peut-être 20 ans, c'est pas.
Et juste dernière petite question, la plus basique pour terminer, ça fait pas trop de mal non plus. D'où est-ce qu'il est né votre amour du volley?
Moi, c'est un peu la honte, je suis un peu plus vieille, mais j'ai démarré avec Jeanne et Serge, donc...
Cédric, une réaction.
Ah ouais, non, mais c'était la question que je voulais poser, justement, si la série, elle avait influencé. Et on a la réponse.
Pour moi, oui.
Alors, je pense qu'avec Flo, c'est notre premier contact aussi avec l'univers du volley.
Non, c'était pas Jeanne et Serge, c'était plus Ouest France qui m'a amené vers... Non, même pas, non, non, c'est... On a quand même quelques années d'écart, c'est vrai. Donc, même si c'est pas grand chose, mais je suis pas Jeanne et Serge.
J'avoue, moi non plus.
Et toi, Salim, c'était,
Moi, j'ai été mis dans la salle par mon père et j'y suis resté depuis. C'est, pas plus simple que ça.
Pas plus simple que ça. Maintenant, Mathéo disait que, t'as pris du galon dans le bureau. Je sais que, tu as la volonté, et le bureau a la volonté, et même Rachel et le club a la volonté de continuer d'organiser des gros événements. Il y en a eu quelques-uns lors de la saison dernière. Est-ce que tu peux déjà nous en parler, d'en faire le bilan et de pourquoi pas évoquer peut-être vos ambitions? Là, c'est pas forcément des ambitions sportives de monter ou quoi que ce soit, mais juste peut-être de rêve de dire je voudrais organiser ça sur Angers.
Bah, j'avoue que l'an dernier, l'accueil des Voliades, c'était quand même assez exceptionnel parce que c'est la première fois que ça avait lieu en Pays de la Loire.
Et pour nous, peux rappeler ce que les Voliades pour
nous. Alors les Voliades, c'est les championnats de France moins de 15 garçons et moins de 14 filles des régions françaises. Donc tous les meilleurs joueurs de chaque région s'affrontent sur un week-end de 3 jours pour définir quelle est la région la plus forte et la plus formatrice. Et donc c'est vrai que cet événement qui regroupe quasiment 680 jeunes plus tous les officiels, c'était un gros test pour nous de savoir si on pouvait accueillir ce genre d'événement. Et donc l'association avec le club de Saint-Barvolet et de Saint-Sylvain-d'Anjou nous a permis en fait de l'accueillir. Et c'est vrai que de l'aveu de gens qui ont fait assez de volleyades dans leur vie, c'était l'une des meilleures organisations qu'ils aient jamais eues. Donc c'est vrai que ce travail, ce gros boulot avec la Ligue, avec les clubs voisins, ça a été quand même assez extraordinaire pour nous. Et c'est vrai que bah, là, l'objectif, c'est de continuer à organiser ce genre d'événement avec... pourquoi pas comme rêve accueillir à l'Arena Loire l'équipe de France masculine.
Ah, c'est possible, hein, tout est possible. Mais c'est vrai que le SCO Volley, c'est recevoir. On avait, je sais que le SCO avait reçu il y a quelques années
la Coupe de France la Coupe 18.
Exactement. Voilà. Donc ça avait vraiment fait grand bruit en tout cas sur dans le monde du volley. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Je dis on parce que j'étais avec,
toujours là aussi.
J'étais dans le coin pour organiser, pour donner un petit coup de main au SCO. On avait pu voir des matchs de volley à Jean-Bouin, et c'est vrai que ça avait été salué par l'ensemble du monde du volley. Mais donc ouais, est-ce que c'est une possibilité ça pour ça il faut faire acte de candidature auprès de la Fédération française de volley.
Je vais parler sous validation de Rachel. Il faut une salle qui respecte certaines normes, et je crois que pour les masculins c'est 5000 places minimum assises. Et avoir assez, enfin comment dire, des hôtels qui sont assez haut de gamme pour pouvoir accueillir les joueurs.
On a ce qu'il faut sur Angers ou pas?
S'il y a sur Orléans, je pense qu'il y a sur Angers aussi.
On rappelle ce que tout à l'heure Mathéo parlait aussi de la formation, vous en parliez des résultats. On rappelle quand même aussi que la France est championne d'Europe en U22, en U20 et en U18. Et je crois que c'est tous les trois c'est masculin. Donc ça montre aussi que le vivier est là et bien présent par rapport au fait que oui, il y a Ingapet, Jean-Patry et Grebennikov, mais il y a aussi donc la suite pour le volley masculin.
Non, moi c'était plus aussi sur les projets, comme on a eu le volley en paralympique. Est-ce que c'est des choses justement qui intéresseraient le SCO de se lancer dans cette aventure? Je suppose que ça doit être assez compliqué, ça doit demander en termes de diplôme pour être entraîneur.
Ça demande des créneaux supplémentaires. Les
créneaux aussi, oui, bien sûr.
Le volet assis, il faut avoir les créneaux. Il faut avoir, bon, le sol, on a un sol qui peut s'adapter, mais il faut peut-être avoir un entraîneur. Moi, pour le coup, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Après, tous les clubs vont vers ça, vers le volet santé. Mais pour le moment, nous, on ne peut pas. C'est à voir dans les années à venir, mais il faudra des créneaux supplémentaires.
Et justement, il y a eu de la demande par rapport à ça.
De créneaux?
Pas forcément de créneaux, mais des gens qui ont vu
non,
ça,
qui
se sont dit...
Non, on le propose pas, donc les gens sont pas forcément venus.
Après, les licenciés un peu plus anciens, j'avoue que moi, on m'en parle un peu de ce genre de section, mais c'est vrai que c'est pas du tout à l'ordre du jour.
Et puis, si la hauteur de la salle Jean Villard, en plus, est bonne, on peut accueillir le volleyeur iranien qui a fait fureur pendant les Jeux paralympiques. On rappelle, je crois que c'était 2 mètres, plus de 2 mètres 46. 2 mètres 46.